Nous allons reprendre, si vous voulez bien. Et j'accueille aujourd'hui Michel Deguy. Ça me fait très plaisir parce que Michel Deguy est un très ancien ami. Je crois que nous nous connaissons depuis 1974 ou 1975. Autour de la revue Critique et autour de Jean Piel, qui était le directeur de la revue Critique. Nous avons, dans ces années 70, souvent déjeuné ensemble pour parler des numéros de Critique. Et l'article d'Éric d'Aragon, que je citais tout à l'heure, que j'ai relu ce matin avec un grand plaisir, c'est un article d'un des grands numéros de cette revue auquel je vous renvoie, intitulé « Photos ». Peinture, août-septembre 1985, sur les rapports de la photographie et de la peinture, et le reprenant aujourd'hui, je suis assez impressionné par la qualité des numéros que Jean-Piel faisait à cette époque. Il y a également un article d'André Rouillet, « La peinture, l'autre de la photographie », André Rouillet qui a écrit de grandes choses sur la photographie depuis ce moment-là. Sans doute avons-nous été ensemble au comité de critique, mais ce n'est pas à ce titre que vous venez aujourd'hui. C'est comme poète, comme aussi universitaire, critique, et comme rédacteur en chef ou directeur, je ne sais pas, en tout cas fondateur, de la revue Poésie que vous avez créée dans ces années-là. Mais j'ai pensé à vous inviter dans ce séminaire sur Baudelaire parce que vous avez écrit un certain nombre d'articles importants sur un certain nombre de poèmes des Fleurs du Mal et également sur le spleen de Paris. C'est à ce titre que j'avais envie que vous veniez. Et je ne sais pas de quoi vous allez parler, mais votre titre, « Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse ?» nous renvoie à la servante au grand cœur. C'est à ce poème que vous allez consacrer votre intervention ?
Oui, à vrai dire, à tout.
À tout.
Et pas à ce poème.
Tout.
Enfin, dire oui, mais c'est... Enfin, bon.
Eh bien, allons-y. Alors, je sais que vous voulez parler longtemps, donc je n'en dis pas plus.
Merci bien. Chers amis, cher Antoine Compagnon, l'exposé s'intitule d'une citation du poète, que pourrais-je répondre, c'est impieuse, qui me donne liminairement l'occasion de saluer le travail monastique de Claude Pichois, puisque je me sers de son édition de 1961 pour la Pléiade en un volume, laquelle se réfère au texte donc, des Fleurs, de 1861, bon, et parfois de son édition en deux tomes, de 1967. La Pléiade aussi, occasion d'associer à ce salut, dans cette maison, Georges Blin, bien entendu. Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse, voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse ? Distique terminale du centième poème, dont l'élastique ondulation, pour reprendre sans délai l'expression où Baudelaire condense son audience passionnée de la langue maternelle, dont l'euphrasie et l'eurythmie reposent sur l'amuissement des « e » et sur la diérèse, ce dispositif clé de la prosodie française, à condition qu'on en généralise la disposition, j'y reviendrai. Mais il convient de déployer dès le début, ensemble, et pour ainsi dire en exergue, plusieurs éléments de la complexité où nous entrons, intéressant simultanément l'ouï-dire qu'est le poème et le sens mis en jeu par la poétique de l'auteur, y compris le sens de sa vie. Autrement dit, les grandes injonctions où le vers, en sentence, ramasse son courage, dit Sturmbout. Je le dis dans le mot de Hölderlin parce que je vais citer deux, trois fois Hölderlin, et fixe le cap de sa navigation ivre. C'est pourquoi j'ai aussitôt à cette première mise en, j'ajoute aussitôt à cette première mise en place le troisième alexandrin de la 123e fleur, à côté de laquelle nous étions il y a un instant, la mort des artistes, qui destine la poésie à piquer dans le but de mystique nature. Non que le mot mystique, comme si nous en habitions dès longtemps la sphère d'appartenance, éclaire d'emblée toute l'affaire, mais bien plutôt parce qu'il nous invite à pénétrer dans sa pensée refaite, son acception en métamorphose. Mon but n'est pas critique, historien, théorétique. L'hypothèse que je reprends ici est que la prise de relais en translatio de la poétique baudelairienne au service d'une poétique contemporaine continuée par tous les moyens ou énergie du désespoir, si je cite le titre du livre où je risquais ce titre, demande à celui qui en forme le projet de se faire destinataire de l'adresse du « que pourrais-je répondre à cette âme pieuse » en se mettant à la place et dans la position de celle-ci, âme de Mariette, et dans celle de Baudelaire, comme nous y autorise le déictique, puisque cette âme est aussi bien la sienne, je veux dire celle du poète, qui se parle toujours en même temps à lui-même. J'avais envie d'associer ici, évidemment, dans les fleurs, le début du poème 62, « Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire, etc. » Donc, ou la mienne, la tienne, je veux dire celle de l'humain survivant, de l'arrière-lecteur, arrière-descendant du premier lecteur hypocrite, vocativé en 1861, celui pour lequel la piété n'a pas perdu tout sens et qui entre dans la scène de cette pietà déjà moderne in illo tempore et par laquelle la piété devient pitié. Et comme je travaillais à cet exposé, il m'arrivait presque distraitement, pour en intérioriser le titre, de prêter à Baudelaire une variante qui n'était que la mienne. Que pourrais-je bien dire à ces âmes pieuses, prosaïsant davantage encore et toujours plus le poème original pour me l'approprier, en quelque sorte sous la double pression de cette troisième modernité, la nôtre, qu'un philosophe appelle volontiers sortie du religieux, démentie bien sûr quotidiennement par tant d'intégrisme, et de l'injonction dont on prête le propos à Walter Benjamin à propos de Baudelaire, de faire entendre toujours plus de prose dans cette prose en poème qui a pour nom poème. La dualité humaine est le but mystique. Oui, ça c'est le plan que je fais semblant de suivre. Cette lecture, donc fidèle au mode heideggerien de la lecture assidue en quête de leitmotiv décisif, eux-mêmes choisis, isolés, montés en acrotème par la fréquentation de l'œuvre, se laisse conduire par ces trois flèches, mot qui me vient peut-être lui-même de la quatrième ligne de cette première strophe du 123e poème « La mort des artistes »,« Combien, ô mon carquois, perdre de javelot ?» Les trois que j'ai isolés, pour piquer dans le but de mystique nature, que pourrais-je répondre à cette âme pieuse, plongée au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. La dernière section des fleurs, celle de la mort, et qui se clôt elle-même par l'ultime alexandrin, peut-être le plus cité de tous, plongé au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, dont le qu'importe dit à la fois la fidélité à Dante, enfer ou ciel, qu'importe, et une sorte d'apostasie ou palinodie. Cette section nous donne en troisième position, après la mort des amants et la mort des pauvres, la mort des artistes. Baudelaire ne dit pas des poètes, mais des artistes. Ce mot qui traduirait le Dichter de Hölderlin, quand celui-ci, 60 ans avant, fixe à la Dichtung son but, je le dis en allemand, was bleibt aber stiften die Dichter, ce qui, on a traduit demeure, disons ce qui reste, les artistes, le fonde, était la traduction, le rejoue, le redonne. Et c'est au troisième vers de la première strophe de cette mort que Baudelaire prononce, et je ne trouverai pas choquant de dire énonce, car le poème est aussi un énoncé dont l'énonciation peut envelopper annonciation et dénonciation, pour piquer dans le but de mystique nature. La lecture de ce sonnet 123e peut remarquer qu'une variante au vers 3 proposait mystique quadrature, mot qui nous renvoie du côté de l'impossible mathématique et de la mise en quatrain poétique. Que le neuvième vers installe idole dans l'attente de sa rime, ce sera Capitole, là où on pouvait attendre l'idée ou l'idéal. Que le septième ne donne pas à ce but mystique le nom de créateur, mais celui de créature, avant de contempler la grande créature dont l'infernal désir nous remplit de sanglots. Tandis que le sixième, rappelant l'usure de l'âme à cette épuisante recherche, plongeon, énonce étonnamment « et nous démolirons maintes lourdes armatures ». Démolition. On ne disait pas encore déconstruction de l'armature. Entre autres, la prosodique, peut-être, celle que Pierre Michon appelle la tringle. Démolition, où je souligne le « dé » pour évoquer tous les coups de « dé » en âge du désenchantement, dont un des chantiers aura été le dédoublement du poème et du poème en prose, ou, disons comme tout à l'heure, de la prose en poème de vers et du poème en prose hanté par le vers, si je peux ainsi commencer à compliquer l'usage de prosimètre pour nos temps modernes. « C'est la mort, dit le second tercet, planant comme un soleil nouveau, soleil noir, mais soleil visible et source de toute visibilité, éclairant de haut notre ici-bas, ce soleil à l'horizon de la mélancolie de Dürer, en position de comparant pour la mort, apte à faire s'épanouir les fleurs du cerveau des artistes et en l'exemple des sculpteurs. Une floraison différente de celle que vient d'évoquer la mort des amants et qui sont fleurs du cerveau. L'homme artiste est un cerveau, mais un cerveau pensant. Il est bon de faire entendre cette formule non seulement pour faire écho à Pascal en le modernisant, mais pour contrer une époque, la nôtre, qui a décidé de confondre la pensée avec la capacité cognitive cérébelleuse. L'un des axiomes fondamentaux de Baudelaire est celui de la dualité humaine, monnayée en dyade, duo, duel l'homme et autres duplicités. Je cite le peintre de la vie moderne. Alors, bien entendu, je ne dis pas les pages, ça ne sert à rien pour eux. Et je fais le geste américain. La dualité de l'art est une conséquence fatale de la dualité de l'homme. Au sujet de cette dualité constitutive de l'humanité, elle-même approchable, c'est-à-dire descriptible et définissable, dans des vues générales qui déploient des couples, des duos différents, il nous faudrait avancer précautionneusement, c'est-à-dire sans trop embrouiller les couples, de manière à ne pas perdre ni travestir le dualisme baudelairien, qui n'en est pas un métaphysique, mais peut-être méthodologique, dont nous prétendons recueillir et assumer un héritage. Et c'est peut-être sur ce faire de part de Baudelaire ou dans Baudelaire que je ne tomberai pas en accord avec la grande et belle leçon baudelairienne d'Yves Bonnefoy. Cette première précaution, donc, la dualité constituante est une contrariété plus radicale qu'une contradiction. Autrement dit, peut-être dialectisable au sens de la relation entre les deux côtés, relation dialogique dont les modes sont richement divers, puisqu'ils peuvent prendre la forme tantôt de la symétrie ou dissymétrie, tantôt de l'antipodicité ou antinomique, tantôt de l'énantiomorphie ou du renversement ou de la réversibilité, disons plus mollement en général, des formes d'adversité ou de complicité, mais nullement guérissables par quelque compromis, ni aucune énologie, ni aucun dualisme métaphysique. La dualité disjoint, disloque le sujet, le poète par excellence, habite cette béance, ce gouffre qui hante le poème baudelairien, cet abîme de l'inconnu. La différence bien-mal en est un mode. Quelle que soit la malice, la méchanceté, le goût de la provocation maléfique de Baudelaire, le mal ne prend pas la place du bien, mais disons est bon, bon à, bon pour la beauté, et cultivé dans l'expérience à cette fin. Le lecteur, l'héritier des écrits de Charles Baudelaire, trouve à côté des fleurs du mal les pages des journaux intimes, les plaintes du cœur mises à nu, les fusées éclairantes tirées dans la nuit, les remords de l'hygiène hantés par les résolutions de bien faire dans le désir du travail qui est le summum bonhomme. Nous savons que la différence bien-mal n'est pas superposable à celle de la foi et de l'agnosticisme avec les variantes athées ou antithéistes dans l'oscillation de ce qu'on appelle le doute. Baudelaire cherche une pratique et la préoccupation religieuse voisine avec celle de l'emploi du temps. Qu'est-ce que la piété dans cet enfer ? La piété dont l'hétéronyme est la pitié qui s'incline sur l'âme pieuse. C'est ce que la dernière page de mon exposé tentera de dire. Peut-être ce qui reste ou relique quand le corollaire de la prière, à savoir le Dieu et sa religion, sont défunts, comme le jette la dernière fusée vers le ciel, guillemets, de la religion, je crois, inutile de parler, se donner la peine de nier Dieu est le seul scandale en pareille matière. La prière à Mariette, médiatrice, est une prière sans foi, pareille au couteau sans manche auquel manque la lame, ou à la définition des premiers objets de la géométrie, premier mathème, ce qui n'est pas rien. Ce couteau ne coupe plus, mais scintille dans la langue. La ligne ou le point ne pèse rien, mais soutiennent l'édifice mathématique. Deuxième précaution. Quant à cette dualité de l'homme, qui a pour conséquence la dualité de l'art, rappelons la thèse célèbre, ou si vous préférez, la pensée profonde de l'expérience poétique de la modernité. La théorie rationnelle et historique du beau, c'est l'expression de Baudelaire, dédouble la beauté du beau. Le beau est fait d'un élément variable et d'un élément immuable, d'une variable et d'une constante, et chacune en variation, ou du pérenne et du circonstanciel qui dépend de l'époque, de la mode, de la morale, des passions. La composition, le mixte, en est difficile à analyser. Le simple étant soit simplement ce qui n'est pas encore analysé, soit, dans la tradition cartésienne, le réquisite ultime de l'analyse difficile du composite. La tâche à laquelle s'applique particulièrement M. G., voici comment il la forme. Il, c'est Baudelaire, formule à propos de Constantin Guy. Pour que toute modernité soit digne de devenir antiquité, il faut que la beauté mystérieuse que la vie humaine y met, involontairement, en ait été extraite. Notre infidélité fidèle, ce que j'ai appelé tout à l'heure palinodie et que je fais mienne en l'aggravant, ce qui commande toute l'interprétation, consiste à consentir à cette théorie des deux moitiés tout en modifiant les termes, voire en échangeant la place. La partie changeante, modale, moderne donc, peut-elle prendre la place de la constance ? On y trouverait nos nouvelles constantes, reliques, changées en moyen d'interprétation ou interprétant. Quant à la partie sous la règle de la religion à laquelle appartenait l'artiste, elle ne serait pas seulement reléguée aux antiquités, peut-être irrelevable, mais envoyée par le fond. Qu'est-ce que changer le passé en sa perte ? De sorte qu'il faut veiller dans le remploi de termes baudelairiens tels mystique ou pitié, piété, à leur duplicité intrinsèque, soit à la différence qui les divise eux-mêmes en eux-mêmes entre un vieil usage de mystique et un usage transformé de mystique. Le but, esquissé à l'instant, est de recueillir, en cherchant à ne pas en omettre quelques-uns de fondamentaux, dans les éléments de la beauté, disons l'esthétique ou poétique baudelairienne, inventée par son art, la partie originale historique, pour lui moderne, attachée à tels ingrédients, par exemple au dandisme, au goût provoquant du mal, acquis ou non à notre contenance ou notre maintenance, à telle transformation près, tandis que le fond, pérenne, académique peut-être, la beauté en marbre, où le symbolisme de l'ancienne symbolique demande à être changé en leur perte. Le principe le principe d'élévation. Les trois premiers poèmes des fleurs posent un principe d'élévation. Dans Bénédiction, le poète lève ses yeux pieux vers le ciel. Quatrième tome. Dans l'Albatros, il est semblable au voyageur ailé, prince des nuées. Et le troisième nomme proprement le principe par son titre, élévation. La première strophe décrit le mouvement en quoi consiste l'ascension. C'est une gradation dont les étapes sont marquées par le passage prépositionnel de « au-dessus » à « par-delà ». « Au-dessus », deux fois prononcé, soumet six choses à son régime, étant vallée, montagne, bois, nuages et mer, c'est-à-dire la terre. Et « par-delà », deux fois, emporte la montée dans la transcendance, au-delà de tout météore, je dirais, en prenant le météore, en donnant à météore son sens XVIIe siècle, au-delà de tout météore, pour ainsi dire, hors univers. D'abord super, ensuite trans. La différence est bien inscrite. Le trans est déplacement, outrepassement, pas de côté et pas au-delà. Qui s'élève ? Mon esprit, tu te meus avec agilité. Ineo vivimus, mauvais mur et sumus. Et jusqu'où ? Jusqu'au point de vue depuis lequel l'immensité vers 6, la vie vers 19 et le langage des choses vers 20 se découvrent et ensemble. Vue et vie de l'esprit, toute vue est vue de l'esprit. Et la vue de l'esprit est comme le regard des yeux, comme un voir, la perception. Autrement dit, un théorein, qui est un comme voir ou quasi voir et qui voit comme. Voir, c'est voir depuis. Depuis le point où la vue est comme un regard qui voit l'immensité, la vie et les choses entre elles se correspondant comme en parole. Il faut être élevé en s'élevant au-dessus du monde réellement, c'est-à-dire par occupation d'un point de vue surplombant. C'est, je me plais à faire cette évocation, l'apic, traduction Quignard, l'apic sublime, upsos, chez Longin, d'où la vue s'étend au plus loin. Intramondain le point, comme si hors du monde, hors monde, dans ce monde, pour être au monde. Le poème prend l'ascendant, dira Breton, dans son mouvement d'ascension ou transcendance, piquant ainsi dans le but de mystique nature. Autrement dit, le voir est intuition, capable du tout ou infini, tant de fois nommé par Baudelaire, en voyant un tout nommé diminutif de l'infini. Et si nous devons, et nous devons, revenir théoriquement, c'est-à-dire réfléchir l'opération de ce voir considérant, nous pouvons l'appeler métonymique et symbolique. Il voit le tout pour le tout, il le joue en langage en un poème, et cette pensivité, mot qui traduirait peut-être la noésis, est identiquement symbolisante, attaché à une chose, à quelque chose qui est mis pour, vaut pour un tout. L'imagination, sacrée reine des facultés en 1859, est un des noms de ce pouvoir voir ou mise en scène du monde. Intuition, imagination et tour de langage, voilà qui demanderait un examen kantien. Ça, je serai obligé de le sauter tout à l'heure. Le cinquième quatrain énonce. Oui, énonce, propose, c'est aussi une pensée loquace, discursive, que celui dont les pensées montent vers les cieux, je suis toujours dans l'élévation, plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Le langage des fleurs, de élévation et des correspondances, si l'on veut, n'est pas tant celui qui se réfère à une symbolique codée pour y faire des variations et des variantes, tel celui que parle au cœur de Madame de Mortsauf, ce lys dans la vallée, le premier bouquet que lui offre Félix de Vandenesse et qui l'a fait rougir comme une déclaration d'amour en Touraine sous la Restauration. Pas tant cette convention, dis-je, qu'il n'est celui, langage des fleurs, qu'il n'est celui des fleurs nouvelles, les fleurs du mal, si nous n'oublions pas le nom du bouquet, que rêve le poème L'ennemi. Que rêve le poème L'ennemi, dans l'ennemi, à savoir celles, les fleurs qui trouveront dans un nouveau sol effondré, troué de tombes, l'existence ravagée de Charles, le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Occurrence de mystique explicitement pris dans la recherche d'un nouvel usage qui nous détourne de rabattre mystique dans son traditionnel emploi. Baudelaire n'est pas un mystique. Et il faut rapprocher les fleurs les unes des autres, ici la troisième et la dixième, pour écouter son langage. J'en profite pour rappeler que le chat, dieu de l'intérieur, donne son nom à plusieurs poèmes et que le troisième d'entre eux se clôt sur leur prunelle mystique. Ou bien nous retombons en enfance et dans la crédulité qui désire que tel magicien du verbe entende, c'est-à-dire parle, le langage sans langue des oiseaux ou de la forêt. Mais c'est plutôt le pouvoir merveilleux du héros, celui de Siegfried plutôt que de Wagner. Ou bien nous entrons dans une poétique. Comprendre sans effort le langage des choses muettes en leur correspondant, c'est justement parler. Mais pas dans la langue des fleurs ou des oiseaux ou des huîtres, ajouterais-je pour rappeler que Ponge prenait aussi le parti des choses, du monde muet. Car les choses se taisent, et aussi ne l'omettons pas, les grandes figures pariétales de la grotte Chauvet rentrées à leur tour dans un silence éternel. Et l'humain qui a le logos parle et en parle langagièrement, logiquement, dans sa langue, c'est-à-dire une langue vernaculaire, dont alors le poète est celui qui la parle mieux, parfois. Selon sa capacité ou virtuosité ou préciosité du prix des choses, son charme, disait encore Valéry. « A thing of beauty », disait Keats, « la beauté est chose complexe, puisqu'elle met en regard celle de la chose, celle de la langue, celle du poème. Semblance des choses, rythme et homologie entre la musicalité, signifiance, préfère-t-on dire parfois, et les significations à la recherche du sens. Ce que le charme en dit de la chose cherche à ressembler dans sa matière singulière, c'est-à-dire propre à un art parmi les autres, à ce que son dire, ramené parfois à son propos dans nos commentaires, cherche à amener en lui, tout en le laissant être de son côté. Intuition et symbole. Je vais vous dire ce que je vais faire parce que c'est un peu trop long. Je vais aller très très vite pour ainsi dire, ne disant presque rien de l'intuition, parce que ça c'est un chapitre kantien, et parler plus du symbole, puisque c'est un texte fondamental de Baudelaire. Donc intuition est le terme qui convient à la poétique pour désigner l'opérateur, j'eusse volontiers repris la locution médiévale de l'intellect agent, de cet empirisme perçant à l'œuvre dans le poème. Cette expression signifie « percer d'un trait parlant le phénomène jusqu'à son être semblable ». Bon, alors j'incite sur le symbole. De temps en temps, je reviens à l'intuition, mais là, je... Alors, le symbole. L'axiome, puisque je dis une intuition symbolisante, l'axiome baudelairien, dont j'ai repris la formulation au chapitre 1 du peintre de la vie moderne, affirme la dualité de l'art est une conséquence de la dualité de l'homme. Et c'est comme s'il y avait un risque de dédoublement scissipare de chaque terme de la dualité, comme si la contrariété en duel ou duo menaçait de se reproduire, divisant toujours plus un même, le même, dans son altérité intime. En bref, de même qu'il y a deux beautés au moins, et non pas la seule beauté de marbre qui donne son titre au sonnet 17, mais avec elle la beauté passante de la passante. Il y a deux symboles, comme en fin de compte, si j'ose dire, deux visages, deux usages, deux sens, deux mystiques. La forêt de symboles des correspondances n'est pas le symbole des journaux intimes. Je crois que si Baudelaire devait se retrouver en tête du chapitre symboliste dans les anthologies, plutôt qu'à la fin de celui des romantiques, c'est parce que son emploi majeur de symbole se lit dans la section 11 des fusées, plutôt qu'il n'hérite de la symbolique traditionnelle ésotérique. Je lis. dans certains états d'âme presque surnaturels. La profondeur de la vie se révèle tout entière dans le spectacle, si ordinaire qu'il soit, qu'on a sous les yeux. Il en devient le symbole. Et nous avions lu à la page précédente, il y a des moments de l'existence où le temps et l'étendue sont plus profonds et le sentiment de l'existence immensément augmenté. La perspicacité ou clairvoyance donne sa chance, son élan à l'intuition, empirisme persan, qui élit la circonstance. C'est le moment intuitif comme bonne à symboliser. Et je dis, mais ça renvoie à des analyses kantiennes, disons, comment la symbolique est schématisée, pour l'interrogation, la profondeur de l'existence, autrement dit, le sens ou vérité de l'expérience de vivre humainement. Le commentaire ici, c'est-à-dire de ce passage de la section 11 du sujet, la paraphrase, l'amplification ou augmentation de cette pensée exigerait des soins micrologiques que le temps ne me permet pas d'entamer, sauf à en ébaucher ces deux motifs. Le presque, qui vient modéliser le surnaturel, parle pour cette déflation ou déposition du ton mystique, je ne dirais pas la démystification, que la poétique endure. La symbolicité ou le devenir symbole dont il s'agit est la résultante, si je peux recourir à ce terme de physicien du parallélogramme des forces, d'une métonymie, la partie pour le tout, ou bien un tout pour le tout, et d'une métaphoricité, un spectacle ordinaire pour la profondeur, c'est-à-dire de la valeur d'un comparant risqué pour un comparable, toujours se dérobant, qui s'appelle ici l'existence. 5 dans mon plan. Je reviens au plan. Voilà. Oui, le monde va finir. Historicité, culture. Le monde va finir. Le monde va finir, c'est l'insipide. C'est une page fameuse des journaux, la dernière fusée. Le monde va finir avec son autre monde. Plus d'un siècle et demi, 6 générations nous séparent du temps de Baudelaire. Mais plus décisivement, deux modernités depuis cette ouverture du seuil de la première modernité poétique française par le grand Porche. Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, et plus décisivement encore par la coupure difficile à sonder d'une mutation sans précédent d'époque débouchant sur celle-ci, la nôtre, où le mot poésie est devenu homonymique pour des ouvrages, des pratiques, des manifestations, disons, des poétiques hétérogènes. D'une formule, il s'agit pour nous d'une autre fin du monde que celle qu'annonce la dernière fusée. La manière dont le temps, sur l'ère de notre temps, en finit avec son monde, et réciproquement, si je puis dire, n'est pas celle que Walter Benjamin désignait de son titre célèbre, un poète lyrique à l'apogée du capitalisme et à laquelle, d'une pensée marxienne et messianique, il consacrait les centaines de pages de sa recherche inachevable. Un artiste, peintre, musicien ou poète, un phare, évoquons Michel-Ange Wagner, à la responsabilité, que pourrais-je répondre, de figurer la fin du monde, disons de l'envisager pour faire jouer l'étymologie de prosopopée, prophétie dans son art, je ne dis pas son médium. La fable de la fin du monde, monde du bourgeois qu'il maudit et dont la ruine universelle est synonyme pour Baudelaire de progrès universel, il en appelle la cause et la modalité l'avilissement des cœurs. C'est celle d'une fin de monde, puisqu'il sait bien qu'un monde, voire le monde, continuera après sa mort. Pour nous, la fin du monde qui fut caractérisé par la pluralité des mondes, s'appelle mondialisation. Ce que Valéry appela le temps du monde fini, qui pour lui commençait en cette fin du XIXe siècle, marquée par la guerre hispano-américaine, pour nous, fini. Le temps du monde fini, fini. S'achève à condition que nous accompagnions cette formulation d'un paradoxe inquiétant. Ce qui est fini ne fait que commencer. Pour laisser passer un filet d'avenir, et à travers même le slogan « No future » de telle génération pénultième, nous passons de l'expression « la fin du monde » à celle-ci « une fin de monde ».
c'est toujours par un autre monde, l'autre monde, hein, son autre monde, qu'un monde, parfois appelé ici-bas, se procure sa vision. Les artistes y pourvoient, les politiques s'en préoccupent, par exemple certains en termes d'alter-mondialisation, d'autres de monde meilleur, etc. Quand et où sommes-nous ? Par où décrire, circonscrire pour le définir cette nouvelle époque en l'âge du capitalisme avancé ? Soit sur fond de Walter Benjamin. Appelons-le le capitalisme culturel. Nous devrions expliciter, je devrais expliciter cette locution à suffisance, et avant même de me demander comment le faire en quelques mots d'abréviation, sous bénéfice d'inventaire, puisque l'horaire n'en tolère pas, ou guère l'exposition persuasive, je dois rappeler pourquoi je dis qu'il le faudrait, dans la perspective ouverte par mon propos, où il s'agit de répondre au « pourquoi Baudelaire encore ?» en recueillant ce qui reste, Bleibet dans la phrase de Lerline, testamentairement, ça nous rappelle le premier poème français, François Villon, pour être transformé en notre modernité dans la gigantomachie des modernités. Pouvoir recueillir, sans faire semblant, un dépôt à transformer, à changer en sa perte, cela exige ou exigerait que nous pensions la différence épocale des époques et leur irréversibilité. C'est bien ce qu'a fait l'autre jour Yves Bonnefoy, à sa manière, en séparant le poème baudelairien de lui-même sous l'horizon, on peut dire appeler ça l'urgence paulinienne, de la dernière phase menaçante de l'époque. Il est bien tard pour telle opération salvatrice, semble pronostiquer la dernière phrase de son dernier livre. Entre les deux vouloirs de Baudelaire et de Mallarmé se joue un drame de longue date latent dans le langage, mais qui se précipite depuis le phénomène futur et sa lecture par Baudelaire, et qui s'approche aujourd'hui de son dénouement. Baudelaire en âge du culturel, qu'arrive-t-il à son poème, à son œuvre ? Ma quête exigerait que je déplie à loisir ma formule. Formule la voici : notre culture est la culture culturelle du culturel. Le dénouement, puisque c'est un drame, une lutte, passe par la compréhension philosophique et poétique du culturel et pas seulement par son investigation socio-politique. Comment le faire entrevoir à toute vitesse ? Alors, je vous signale que dans les préparatifs sacres, à ce moment-là de ma question, je suis tombé sur la semaine d'un maître de cet établissement, la semaine de Pierre Bourdieu, il y avait un tas de textes. Et, bon, mais je ne passerai pas par là, je prendrai simplement un exemple pour faire entendre cette différence, et puisque montrer l'exemple, c'est ce qui fait voir. Alors, l'exemple de phénomène culturel, le voici. Je cite une phrase tirée, donc dans l'actualité, là, de la librairie 2012. Je cite une phrase tirée de Écorce de Georges Didier Huberman. Revenant du camp d'extermination et n'en revenant pas de sa transformation fatale, c'est-à-dire inévitable, historiale, en lieu culturel, destination de tout lieu de mémoire. Je cite. Tous les lieux de culture, les bibliothèques, les salles de cinéma, les musées peuvent contribuer de par le monde à construire une mémoire d'Auschwitz, cela va sans dire. Mais que dire quand Auschwitz doit être oublié dans son lieu même pour se constituer comme un lieu fictif destiné à se souvenir d'Auschwitz ? Que dire ? La différence de culture à culturel, on l'entend passer dans cette phrase, mais faute d'être traitée pour elle-même, elle risque de passer encore remarquée. Tout se passe comme si ce devenir culturel de tout était inéluctable, fatal. Tous, un peu au sens où, bien que ça ne soit pas la même chose directement, mais ça me revient, sans au Primo Levi dit tout à coup, la recherche est le fatum de l'humanité. Bon, la recherche, ce n'est pas le culturel. Tout ce qui a lieu au nom ou sous le nom de culture, alibi homonymique de culturel, subit cette fiction. Je reprends le mot de Georges Didier Huberman, fiction, un lieu fictif. Subit cette fiction, cette artefiction fictivante, qu'on dirait être un remake, leurrant, un abaissement et non pas une élévation. Transformation où se perd la gravité. le ci-devant poids des choses, futilisante plutôt que soulevante. Mais qu'est-ce qui permet donc de la juger telle, rabaissante, s'indigne le culturel ? C'est bien la question infernale que Baudelaire appelait l'avilissement du cœur, et qui n'est pas explicable entièrement, c'est-à-dire pas du tout, ni par le culte de l'argent, l'embourgeoisement, c'est-à-dire ce qu'il la fin du monde que Baudelaire vient, l'embourgeoisement, ni par la domination selon Bourdieu. Qu'est-ce donc que ce dépérissement, pour reprendre un mot énigmatique de Marx, qui pourrait peut-être resservir, dépérissement de la ci-devant culture dans la forme du culturel. Ce mouvement baudelairien de palinodie, extrémisé, dépérissement, etc., extrémisé, caricaturé souvent, en fureur de renégat ou blasphème, etc., c'est ce que nous, ces arrière-petits-fils lecteurs, aggravons pour conserver ce qui est à transmettre, ce que j'appelle les restes ou reliques, et celui-là, cette transmission aggravée, disons, qui se veut le contraire d'un abaissement, ne serait donc pas culturelle. La transcendance à relever, loin de passer par une remythologisation ou re-théologisation, passe par la démythologisation, la déposition, la démystification, ce mot étant à prendre avec beaucoup de soin, évidemment. Bon, alors je passe, si vous voulez bien, sur j'ai encore un petit peu de temps quand même, mais là, je cherchais des formules pour reprendre, déplier le culturel et cette formule culturelle. J'en dis simplement une toute petite formulation. Notre culture est la culture culturelle du culturel, où tout est culturel, phénomène social total en langage de Marcel Mauss. Or, saisir l'ampleur et la radicalité du phénomène culturel, c'est à quoi résistent ? Eh bien, les mentalités, c'est à quoi résistent la plupart des idéologies. Alors, j'essaie une seule formule ici, très condensée, faute de temps, et si vous voulez, je serais contraint de renvoyer un tas d'analyses que j'ai produites ça et là. Bon, tout, c'est la formule condensée, ce serait tout ce qui est, tout étant, comme disent les philosophes, est changé en son identité, par la technique, en son identité génotypique, patrimonialisable, c'est-à-dire phénotypique, en son image, changé en son identité, alors on va dire identité patrimonialisable, c'est-à-dire celle qui apparaît phénotypiquement, en son image et de marque. Alors là, l'image, évidemment, ça serait reprendre une énorme discussion. Au fond, on pourrait dire que tout ça, c'est tout à fait passionnant. C'est tout ce que Antoine a retrouvé, enfin redit sur la photographie, parce que tout ça, c'est l'affaire d'image. Parce qu'on peut dire, je m'excuse tout à coup de penser à ça, mais on peut l'image photographique. Et alors, Baudelaire écrit, tout le monde le sait, cette fameuse formule, ma grande, mon unique passion, et là, le culte des images. Ben alors on a envie de dire, et oui, seulement image, c'était justement pas la télévision. Alors l'affaire se glisse là-dedans. Bon, alors, je fais un détour par la vie de Charles Baudelaire. J'appelle ce moment l'ennui. La vie, la biographie, les ennuis, l'ennui. Considérons les deux moitiés, les deux côtés de la dualité, sous cet angle-là. La vie de Baudelaire, que l'acrébique biographie de Claude Pichois, et donc on le salue avec reconnaissance, épluche ou épelle mois par mois, et presque jour par jour, décrit une existence faite d'ennui, d'accablement et de dispersion, dont Antoine Compagnon, dans sa deuxième leçon, nous lut témoignage poignant et soufflé d'une lettre à sa mère, je crois, c'est la lettre à sa mère. L'ennui de tous ces ennuis est un des grands poèmes de Baudelaire. Si maintenant je cherche à faire entendre poème, par sa terminaison dans l'homophonie et homologie, à mitème, théologème, philosophème, c'est-à-dire comme élément ou unité de poésie pour une réflexion critique théorique, ou comme on disait naguère en ces lieux, structurale. L'œuvre de Baudelaire ressasse et transforme, élabore, un certain nombre de tels poèmes. L'ennui est l'un d'eux, bien plus qu'une thématique. On compte 22 occurrences de l'ennui dans les fleurs, au singulier ou au pluriel, comme verbe ou comme épithète, une fois comme variable, c'est-à-dire comme variante non retenue, en rime implicite avec la nuit, par le « tu nuis » de la nuisance, attribué à la femme impure ou à d'autres. Déterminée par différents verbes, tels « avaler »,« mordre », etc., associée maintes fois à la profondeur et au fond. Les fleurs s'ouvrent sous son invocation. Dès le premier poème, en effet, au lecteur, cette descente à l'inferno, l'ennui est le démon le plus immonde. En majesté, dans le dernier quatrain, d'adresse aux frères, aux semblables, à l'hypocrite lecteur, il est interpellé, identifié, majuscule, c'est-à-dire en entité ou allégorie ou divinité. Qu'est-ce qui confère à une entité la dimension d'une divinité quand il n'y en a plus ? C'est sa grandeur de monde, de tenseur de monde, d'existentiel. Le corrélat de l'ennui est le monde qu'il avalerait. L'ennui est monde, démonde, rime à immonde. Le monde, l'être monde du monde, sa mondanité ou mondialité, comme un des noms du tout, est avalable par l'ennui, dont le bâillement ne fait qu'une bouchée, bouchée de monde. Cette bouchée que l'art poétique de Claudel décidera d'appeler intelligible, mais qui pour Baudelaire fut amère, bouchée de l'inintelligible, en tout cas de l'inacceptable. Comme souvent chez Baudelaire, il y a un train-train de dodécasyllabes qui, occupé à faire poncif, peut assoupir notre vigilance et pas sans stéréotype, enveloppant une expression qui mériterait plus d'inquisition. C'est l'œil chargé d'un pleur involontaire. Bailler fait pleurer, et ce pleur réflexe où l'ennui s'ennuie lui-même est peut-être même capable de noyer d'indifférenciation d'autres larmes, d'autres pleurs, ceux qui tombent de la paupière creuse, de la pieuse de Mariette, comme si dans le « que pourrais-je répondre » passait aussi une sorte de lassitude extrême. Et peut-être en cette matière devons-nous distinguer aussi deux éléments de la dualité, deux moitiés, au risque de trop diviser, et sachant que les deux moitiés passent l'une dans l'autre, on échange dans l'indivision. La première, c'est l'ennui de fond, le fondamental, l'ennui métaphysique, ou dans le vocabulaire que j'ai fait allusion tout à l'heure, philosophique, l'existentiel. C'est lui qui harcèle les journaux intimes en notation brutale, simple. C'est l'ennemi intime de sa moitié, de son autre, la hantise de son antonyme hétéronyme, le travail, qui a reçu depuis chez les intellectuels du XXe siècle le nom d'écriture. L'ennui, c'est le vide, c'est le goût du néant, poème 80, quand le temps m'engloutit minute par minute, l'ennemi dans le poème 10, aux douleurs, et en recopiant ça, je me disais, à un moment, dans les illuminations, il y a Rimbaud qui dit douceur, douceur. Je me demande si le douceur, douceur de Rimbaud n'est pas une espèce de contre-écho, douleur, douleur, aux douleurs, le temps mange la vie. Et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, du sang que nous perdons, croît et se fortifie. Ou alors en prose dans les journaux, il est grandement temps d'agir, de considérer la minute présente comme la plus importante des minutes et de faire ma perpétuelle volupté de mon tourment ordinaire, c'est-à-dire du travail. Il n'y a que deux moyens pour échapper à ce cauchemar du temps, le plaisir et le travail. Si tu travaillais tous les jours, la vie te serait supportable. Travaille 6 jours sans relâche. Je me demandais pourquoi il n'a pas dit 7 jours. À croire que le poème voué à la positas et à la brevitas ne peut pas, faute de travail proustien, arracher le temps retrouvé au temps perdu. La deuxième, puisque j'ai annoncé un dédoublement de l'ennui, porte le nom de spleen, aspect modal de l'ennui, je veux dire moderne, à la mode anglophile, dandy, entre le laudanum de Thomas de Quincey et l'absinthe de Verlaine, l'opium et la fée verte. Le spleen datable qui vient titrer en 1869 tous les poèmes en prose, partie variable, moderne pour Baudelaire et qui va précisément pour nous entrer dans le démodé, ce qui précède notre modernité ou postmodernité. Tout le premier film noir et blanc, si je peux dire, dommage que Dadar n'ait pas eu de caméra, et où défile le Paris capital du XIXe siècle avec les choses immobilières et le mobilier urbain de ces temps, les passages et l'énorme chantier haussmannien, Lumignon et Lupanar, les ruines et les antiquités de Paris, eux-mêmes rejetons des regrets de Dubélé, tout ce qui, à son tour, a disparu ou changé, le vieux Paris n'est plus. La deuxième moitié, la ci-devant moderne, s'est effritée pour nous, et ce qui reste, das bleibt, le fond invariant du pérenne, demande à être rejoué, les deux moitiés demandent à être réajustées, nous amenant à ressonder l'ancienne, qui retourne peut-être au fond de l'inconnu, pour être reprise, remodelée dans nos nouvelles choses, s'il y a encore des choses. Petit excursus mallarméen. Je salue mon ami Richard Rand, avec qui nous avons travaillé ce poème, le tombeau mallarméen. Et sans doute serait-ce le moment de relire les deux textes que Mallarmé écrit pour Baudelaire, celui de sa jeunesse au titre conventionnel, symphonie littéraire, bijouterie descriptive, exercice quasi parnassien, plein de joliesse, de pierrerie, voire d'ampoule. Et la stèle rigoureuse de 1895, si chantournée que Mondor y voyait son hommage le plus obscur et le moins convaincant. Obscur, disait Mondor. Oui, et du coup lumineux, d'une clarté qui ne s'éteint pas et dont nous pouvons longtemps chercher à nous éclairer sans vider ses accus. Car c'est bien de lumière qu'il s'agit. Et comme si Mallarmé condensait successivement trois lectures de Baudelaire. La première, celle de celle d'un sectateur d'un ésotérisme vulgaire, divulgué, premier quatrain, de quelque idole Anubis, c'est une lumière criarde, flambée, qui éclaire la scène du museau de l'idole. Disons qu'il semble que la superstition soit ici rudement traitée. Dans la deuxième strophe, il, c'est Baudelaire, ou le gaz récent, difficile, allume une autre mèche pour une autre scène, devenue elle aussi très achalandée, bientôt à la mode, le Paris louche des ruelles, de l'alcool après l'opprobre, du bec de gaz qui allume un pubis. Les lecteurs de Baudelaire risquent d'être mystifiés. Mais dans le sextet ou les deux tercets, l'œuvre de Baudelaire est un voile lumineux enveloppant son ombre. Les lueurs flambées au museau de l'idole et la mèche louche essuyant des opprobres se changent en une bougie votive éclairant le feuillage séché du poème, apte à bénir pour trouver sa place, se rasseoir contre le marbre tombeau de Baudelaire. La mèche louche se change en ombre, comme elle, l'ombre majuscule, un mot pour le mort. Le voile qui la ceint change l'ombre, c'est une autre lumière, un poison tutélaire toujours à respirer. Et tout cela vainement, comme toujours chez Mallarmé, que le tombeau de papier soit manqué ou que tout poème soit essentiellement vain. La beauté en poème. 9. Si nous faisions une enquête, pratique très en vogue, sur la beauté en femme, en paysage, en monument, en ameublement, etc., l'opinion quêtée nous répondrait sans peine par des exemples, comme font les jeunes interlocuteurs de Socrate, et peut-être en cherchant une correspondance, une homologie entre des types. Mais sur la beauté en langue, dans leur langue, beaucoup de gens, comme on les appelle, refusant d'être traités en gens de lettres, ne trouveraient pas. La réponse est difficile parce que rien ici ne saute aux yeux, mais que tout intéresse une sensibilité éduquée, une formation de l'ouïe intérieure à jouir de sa langue, jouir des beautés modelantes de son parler, peut-être pour remplir cette temporalité vide qu'Augustin nomme extinctio animi, autrement dit, passer le temps en rythme. Convoquant et comparant les manières de dire, les styles historiques, les mille tours de la capacité polymétique, ulyssienne en effet, jusqu'à Joyce, de parler. C'est une réflexion esthétique qui s'en soucie, et dans le cas de la langue, une poétique, puisque la cause matérielle de la chose, comme disaient les aristotéliciens, est en langue, en langage de langue, la poétique analyse, montre, fait entendre cette matière. Le poème pour Baudelaire, c'est la beauté en langue, qui peut certes se rapporter à, on dit souvent imiter, une beauté féminine ou paysagère, ou à une laideur, du mal, mais ce n'est pas cette référence extrinsèque qui confère de la beauté à la strophe ou au paragraphe du poème ou de la prose. Baudelaire définit explicitement et à maintes reprises la beauté en langue vernaculaire, dédoublée en poème et en prose en poème, poème en prose et autres registres de ce que nous appelons l'écrire. Je voudrais en faire écouter quelques occurrences fameuses. Son sens de la beauté, le mot est bon, puisqu'il dit dans la parfaite ambivalence de goût, la sensibilité, la sensation, le sentiment et le jugement à la faveur du comparant pris à la gustation qui vaut pour le plaisir de l'audition de notre langue, de l'entendre des intelligibles ou significations et des réponses à la question « qu'est-ce que ça veut dire ?». Son sens de la beauté est celui de l'élastique ondulation et de la rhétorique profonde, soit de la prosodie et de la sorcellerie évocatoire de la grammaire dont je parle maintenant. Alors, quelques citations, j'aimerais bien en faire, mais ça, je vais être obligé d'abréger. Son admiration pour Théophile Gautier, ses promesses à Arsène Housset, parle ainsi, vous connaissez ce passage formidable. C'est le caractère de la vraie poésie d'avoir le flot régulier comme les grands fleuves qui s'approchent de la mer, leur mort et leur infini, et d'éviter la précipitation et la saccade. La poésie lyrique s'élance, mais toujours dans un mouvement élastique et ondulé. Comment la poésie touche à la musique, touche à la musique, par une prosodie dont les racines plongent plus avant dans l'âme humaine que ne l'indique aucune théorie classique. Que la poésie française possède une prosodie mystérieuse et méconnue comme les langues latines et anglaises. J'aime bien dire ça aux Anglais parce qu'ils n'aiment pas ça. Comme les langues latines et anglaises. Pourquoi tout poète qui ne sait pas au juste combien chaque mot comporte de rimes est incapable d'exprimer une idée quelconque. Et puis, alors, le passage, quel est celui de nous qui n'a pas dans ses jours d'ambition, etc. Mais je vais assez souple et assurté pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. Alors, le secret de la prosodie française, à savoir ce qui permet de la comparer aux prosodies latines et anglaises pour la quantité et tonicité donc, tient au jeu de l'amuissement du « e » et de la diérèse généralisée. Bon, alors je ne reprends pas ici les remarques que j'ai développées dès 1980 dans un livre bientôt pilonné, publié chez Hachette. Remarques développées sur le rayon de l'infini, l'imparisyllabisation de l'alexandrin, passage où il dit, à propos de la mer, de 6 ou 7 de liquide en mouvement, dans les journaux, c'est la définition de l'hémistiche, tout ça est très étonnant. Alors, l'imparisyllabisation de l'alexandrin, ni sur le rapport de la diérèse à l'infinitisation, mais j'en repropose l'exemple probant. Si le parfum est le comparant central des correspondances, c'est parce qu'il est sans bord, affaire d'expansion, dont le vocable en français est diérésable, élongable, étirable en diction. Et j'ajoute, comme, ou en correspondance avec, l'artificialité paradisiaque de l'opium qui, je cite, agrandit l'opium, agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'illimité. Tout poème est en même temps un poème de haschich, et c'est la seule manière d'entendre l'illustre injonction « Enivrez-vous ». Alors, de tout ce dispositif, bon, je vais être obligé de sauter. Je veux dire simplement un mot sur le poème du haschich à cause de la sorcellerie évocatoire. Le poème du haschich redouble, surexpose la poétique. Ainsi, il y a un instant, ai-je pu, autrement dit, dû renforcer l'interprétation de et par la diérèse avec cette preuve par l'opium. De même, l'opium fait que la sorcellerie évocatoire envahit la conscience, c'est-à-dire fait passer devant thématiquement la rhétorique profonde. Et met sous les yeux, c'est-à-dire dans les oreilles, la machination tropique du poème. à condition que nous entendons bien par grammaire, je vais faire la citation sur la grammaire, que nous entendons bien par grammaire toute la logicité, la grammatologique, l'unifiante complexion dont l'école jadis confiait le savoir à l'analyse grammaticale et logique, à quoi il convient de conjoindre au même niveau de radicalité la tropologie ou rhétorique. Alors, je devrais lire lentement, mais tant pis, la grammaire, la rite grammaire elle-même devient quelque chose comme une sorcellerie évocatoire. Bon, vous relirez ce passage magnifique. La musique, autre langue chère aux paresseux, aux esprits profonds qui cherchent le délassement dans la variété du travail, vous parle de vous-même et vous raconte le poème de votre vie. Elle s'incorpore et vous fondez en elle. Elle parle votre passion, non pas d'une manière vague et indéfinie. Et le poème entier, entrant dans votre cerveau comme un dictionnaire doué de vie. Ce que Baudelaire dit là de la musique, autre langue chère aux esprits profonds, vaut d'abord précisément pour le poète, dans le hachiche, l'être parlant, pour la musicalité de la langue, c'est-à-dire la prosodie, chaque phrase se transformant en carmen ou chant ou diction de la séquence phrasée pour une jouissance subjective, celle de ma langue. Le poème entier entre dans votre cerveau comme un dictionnaire, et j'ajoute une grammaire, une rhétorique, douée de vie. Par quelque bout que nous prenions la diffamée rhétorique, par la diérèse, par l'hypallage, périphrase. Pourquoi je dis la périphrase ? Parce que je viens d'examiner une thèse italienne, Federica Locatelli, je salue à Milan, qui est une très belle thèse sur la périphrase. Si nous en examinons chaque tour, si nous en examinons le tour, hypallage, périphrase, entourant de soins analytiques son tournement, repensant la prestidigitation de la pensée phrasée, en quoi ce tour consiste, rejugeant l'opération depuis sa raison jusqu'à ses effets, tout vient par ce bout. La tropologie joue son va-tout à chaque trope, qui est une figure de pensée, un mode du se figurer de la pensée. Bon, alors à cause de mon titre, je vais finir par, si vous me donnez encore 7 minutes, La Pietà Baudelaire. Ça va ? Antoine, je peux m'arrêter, bien entendu, mais ça serait dommage. Bien, puisque ça arrive, j'y vais. La Pietà Baudelaire. La Pietà piété du poète est une prière à l'âme pieuse de Mariette et d'autres et à la sienne. C'est une prière sans foi, mais non sans loi. Que pourrais-je bien dire ? La déposition ou profanation permet une translation, c'est-à-dire une manière de transformer le dépôt ci-devant sacré. Après avoir fait de la profanation avec de la révélation, c'est l'art séculaire, notamment de la peinture et renaissante, qui déposa la virginité en jeunes beautés italiennes, il s'agit de faire de la révélation, on dira bientôt illumination, avec de la profanation. L'indivision étymologique, puis la séparation de piété-pitié, est à méditer. Baudelaire aurait été, c'est le dictionnaire qui trouve ça, le premier à remonter à la souche commune par l'italien. Le 21e vers du Sonnet des fleurs, dont l'élastique ondulation envoie deux vagues montantes, portées chacune à son comble en deux accentuations, à la fois quantitative, allongement, et intensive, stress, si vous voulez, l'une à la césure, l'autre à la fin, dont la deuxième, dépliée à la mesure d'une diérèse majeure, fait entendre le cœur battant de la poétique de Baudelaire. Je me plais à y percevoir la refonte de piété et de pitié en train de fusionner dans l'infinitisation diérétique de pieuse. Qui est celui qui peut dire « j'ai pitié de nous » ? De quel fond, de quelle hauteur peut fondre sur nous la pitié. Celui qui prend en pitié n'est plus personne, mais l'un quelconque, chaque un d'entre nous, en tant qu'anéanti. C'est comme s'il parlait depuis un très haut, ou point le plus haut, le sublime, où l'a fait monter le principe d'élévation, c'est-à-dire le transe du mouvement de transcendance en lequel se soulève l'humanité. Le point doux dans la légende évangélique, le Fils de l'homme pleure sur Jérusalem. Nous pleurons sur super flumina babylono. Le mortel mourant, car il faut encore que le mortel, c'est son nom propre chez Heidegger, meure. Anéanti, tire de l'angoisse qui lui tombe dessus la compassion, passion commune, nullement une bonne empathie épisodique ou une aptitude sympathique dont serait favorisé un tel ou un tel par un bon tempérament, où se révèle le sort commun, cette égalité des hommes devant, sur quoi s'appuie, promise à un bel avenir républicain, l'égalité politique. La piété avait été le nom donné par Aristote à la passion bifide, la pitié, pardon, avait été le nom donné par Aristote à la passion bifide ou rythme, terreur, pitié, unifiant cathartiquement les citoyens au théâtre de la tragédie des hommes devant les dieux. Puis le dieu, fils de l'homme, pleura sur les humains abandonnés qui ne savent pas ce qu'ils font. La pitié n'est pas du corps, pas du tout animalité, ou pour prendre le vocable dominateur aujourd'hui, non réductible à la sensation. Sans doute l'émotion prend-elle à la gorge ou au ventre. Le corps est le sérieux de l'émotion, disait Sartre. Mais le prédicat viscéral ne règle pas son compte ontologique. Alors, je m'arrête là. Non, pas tout à fait, si vous voulez, je vous lis. Alors, ce qui sera vraiment la coda de la finale, ce que je pensais lire par-dessus. L'aurais-je oublié ? Non, voilà. Ça sera la dernière page de cette lecture, finalement. Disons le poème de Baudelaire infaillible. L'infaillibilité, l'oreille, c'est-à-dire l'intelligence postmoderne, prend ce vocable avec les pincettes des guillemets, trouve ça désuet comme la tiare à verser au cabinet des reliques et passablement ridicule hors contexte, grâce au cinéma. Mais notre affaire, je veux dire toujours la même, celle de répondre des âmes pieuses, c'est-à-dire de remployer les reliques langagières, de les prendre en translation studii ou studiorum, de ne pas les jeter à l'immense oubli de la décharge, dans le but plutôt de les reprendre en sens pour nous, répondant à l'âme pieuse et de s'en resservir. Si une parole humaine en son parler peut être, en certaines conditions, tenu pour infaillible, c'est qu'il y a une possibilité humaine pour cela. Et l'un de nous le peut. Un « je vous dois la vérité » qui ne se trompe pas en la donnant, ça peut arriver, c'est l'infaillibilité du poème. Le cœur mis à nu murmure « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me comprendra. En quoi suis-je infaillible ? Quand ?» en poème. Son infaillibilité consiste en sa possibilité de dire juste, de tomber vrai, chaque fois que son dit sous-entend ou implique, comme on a un coefficient, un « je ne me trompe pas », c'est comme si un principe d'infaillibilité s'exerçait. C'est ce qui fascine, sidère dans le poème. Je vous dois la vérité en poème, je vous la propose ainsi. Cependant, personne n'entend, n'attend, ni n'admet cela. « Je ne suis pas lisible » signifie plus radicalement que tous nos colloques sur l'illisibilité ne peuvent l'avouer, que personne ne désire tomber sur, c'est-à-dire sous, cette parole. Quand le poème est bon, autrement dit beau de vérité et vrai de beauté, il est infaillible. Nous ne voulons pas y croire et le confions à son idiosyncrasie ou subjectivité, incriminée, aimée, plutôt que de franchir le seuil de la lecture. Nul n'est poète en son pays, à modifier ainsi. Quelques rares sont poètes pour leurs frères de langue. On peut remarquer que je cherchais ce soir en quoi le poème de Baudelaire pouvait être dit infaillible. Merci.
Merci, Michel. J'aurais dû vous donner les 2 heures.
Merci. Non, c'est vrai.
La prochaine fois, je vous donnerai les 2 heures. Mais je pense que nous sommes un peu tard pour avoir un échange. Et en tout cas, vous avez fini sur l'infaillibilité. Donc, il n'y a rien à ajouter au poème infaillible.
C'est pas donc, ça que je voulais provoquer.
Je vous remercie et à la semaine prochaine donc pour la suite de ce cours.